Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il est né un 15 janvier, comme Molière ou comme Martin Luther King, mais lui c'était il y a 45 ans. Quand on le voit apparaître sur un écran, on ne l'oublie pas, parce qu'il a une gueule comme on dit, ce qui finit par l'agacer d'ailleurs, mais surtout parce qu'il incarne ses personnages avec une profondeur qui en devient parfois troublante. Fermez les yeux et pensez à Hippocrate, à un prophète, pensez à Mafiosa, à En Thérapie ou encore à Engrenage, et vous allez voir son visage se dessiner. Ce soir, Reda Kateb est dans Hors-Piste.
Hors-Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Depuis qu'il n'y a plus de jazz américain à Paris, c'est moi le King of Swing.
Je m'appelle Kateb. Kateb, ça veut dire écrivain en arabe. Ça vient de Kitoub, le livre. Et je suis issu d'une lignée d'ancêtres poètes, artistes.
Répétition du texte. Mise en mémoire pour Malek Kateb. Quelques instants, il sera le sultan, celui qu'il faudra amadouer.
Sherazade, je rends hommage à votre désir de devenir mon épouse.
L'une des coqueluches des producteurs américains aujourd'hui est un Français, Reda Kateb. Il est ce qu'on appelle une gueule.
Je l'ai vu dans Un Prophète et je l'ai aussi vu dans Zero Dark Thirty. C'est un acteur magnifique, un vrai gentilhomme, un gentleman.
Je suis l'interne. Je suis venu pour parler un petit peu avec vous et pour vous examiner.
Oui.
Vous avez mal?
Le meilleur acteur dans un second rôle est... Reda Kateb.
Premier César. La réalisation de celui qui avait fait ses premiers pas au cinéma dans Un Prophète de Jacques Audiard en 2009.
Bonsoir.
Waouh.
Je suis très touché de recevoir ce César du meilleur second rôle. J'aime beaucoup les seconds rôles. Je trouve que c'est les rôles qui ont cette chose collective de ce métier d'acteur qui n'est pas pour prendre toute la lumière.
Les fins, il a de l'esprit, là. C'est un monstre.
Vous êtes la virilité 2.0, Reda. Vous êtes cet animal brutal caché sous une féminité délicate. Pour moi, Reda, en fait, vous êtes un genre de Joe Star qui aurait mangé Marguerite Duras.
Polo, il est pur Yorkshire ?
Non, Polo, il est croisé...
Ah, bah, ça, c'est bien. Ça, c'est, ouais. C'est ça qui fait son intelligence. Il est croisé avec qui ?
Il est croisé à York et Fox Terry.
C'est pour ça qu'il n'a pas le poil long, en fait, comme les Yorkshire.
Vous vous ressemblez de plus en plus, hein.
Ah bon ?
Mmh. Moi, il a fallu du temps pour qu'on se ressemble, Polo et moi. Ça a pris 3 ans, à peu près.
Ouais.
Maintenant, regardez.
Ah ouais, il y a quelque chose, c'est vrai, dans la façon de se...
Hein ?
Dans la position, comme ça. C'est vrai, c'est dingue.
Millions d'amis pour achever ce portrait. Bonsoir et bienvenue à vous dans Hors Piste, Reda Kateb.
Bonsoir.
J'avoue que je pensais pas initialement qu'on commencerait l'émission avec Polo, mais voilà, Polo, il est partout dans votre vie. Il est pas venu dans le studio aujourd'hui.
Non, c'est vrai qu'on a eu quelques déconvenus au niveau de la sécurité de la maison de la radio. La prochaine fois, on viendra.
Polo est un suspect. Alors, en tout cas, il est ultra important dans votre vie. Alors, parlez-nous de Polo, qui a joué d'ailleurs dans L'Amour Flou. On entendait dans le portrait un extrait.
On commence par Polo, alors.
Okay. Oui, on commence par Polo, ouais.
Très bien.
On a le sens de l'essentiel ici.
Et non, j'ai bien aimé le montage que vous avez fait. C'était marrant de commencer pour le coup par Django et de finir par 30 millions d'amis. J'entendais une espèce de reprise de 30 millions d'amis par Django Reinhardt.
Polo, il y a une cohérence dans tout ça?
S'il y a une cohérence, c'est que tout a à faire avec moi, de mon père à ce moment de César et des personnes qui parlent de moi. Non, c'était un joli coup dans le rétro, en tout cas, un joli coup d'œil dans le rétro. Et pour ce qui est de Polo, bah, c'est mon chien, c'est mon meilleur copain, que vous dire. On s'amuse, lui et moi, de plus en plus, on fait des petites choses, on tourne des petites choses ensemble, comme l'amour flou. Je n'ai pas encore trouvé vraiment un rôle à sa mesure, mais je cherche.
Comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes trouvés avec Polo?
On s'est rencontrés sur un tournage dans le sud de la France, pas loin de Nice, à Carros, lors du tournage d'un film qui s'appelait Arrêtez-moi là, et où je jouais un chauffeur de taxi victime d'une erreur judiciaire, à qui on avait pris son chat et qui, finalement, sortant de prison, après ces mois passés en détention, cherche son chat. Il ne le trouve pas. Alors, je n'ai pas trouvé le chat, mais j'ai trouvé mon chien pendant cette journée de tournage.
En fait, vous auriez pu jouer dans Un homme et son chien, à la place de Jean-Paul Belmondo. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Écoutez d'ailleurs comment Bébel racontait sa rencontre avec un de ses chiens. On est en 2001.
J'avais ce chien en tournée dans les Carpates, et c'était une chienne qui était sur trois pattes. Elle avait l'air d'une petite hyène, et elle demandait à manger qu'à moi. Ouais. Il y avait toute la troupe, et c'était toujours à moi qu'elle demandait à manger. Quand je suis parti, je dis, je ne peux pas laisser
le chien. Elle savait que vous l'aimiez peut-être.
Oui, voilà. Et quand je l'ai voulu l'emmener, très gentiment, les gens de Roumanie m'ont dit, moi, amenez un chien de race superbe. Et tu dis, non, c'est elle que j'en... Non, non, tenez, voilà, un très beau chien, vous n'avez pas emmené ça. Et j'ai ramené ce chien que j'ai gardé 16 ans aussi, une chienne formidable avec ses trois pattes. Elle a vécu très, très bien et très heureuse. Et puis là, je voyais le petit diable que je viens de trouver, là, il était trouvé dans le bois de Boulogne. Les chiens arrivent, j'ai jamais acheté un chien de ma vie, quoi. Voilà, c'est des chiens qui arrivent par hasard.
Comme les amis?
Oui, voilà, les amis, on les achète pas, de toute façon.
Les chiens, c'est comme les amis, ça s'achète pas, Reda Kateb. Quand on s'amourache d'un animal de compagnie, c'est parce qu'on a peur d'être déçu par les hommes? C'est une protection? Il y a quelque chose comme ça ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, vraiment, je n'ai pas peur d'être déçu par les hommes ou les femmes. Ça nous arrive évidemment d'être déçu dans la vie, mais cette comparaison entre la relation qu'on a avec les animaux et celle avec les hommes, je ne rentre pas du tout dans une comparaison comme ça. J'adore par contre cette idée qu'effectivement on n'achète pas un animal. Moi, je n'ai eu que des animaux réfugiés, des animaux adoptés, des animaux récupérés et surtout des rencontres. La relation qu'on peut avoir avec un chien qui est très particulière, qui est très fusionnelle, elle est tout autre lorsque c'est une rencontre et pas un achat, c'est sûr.
Bon, on va laisser Polo faire sa sieste, on va parler un peu de vous, Reda. Est-ce que vous donnez facilement votre confiance?
Peut-être pas facilement, mais pas non plus. Je ne donne pas forcément si facilement que ça ma confiance, mais je peux la donner rapidement et à l'instinct. Je crois beaucoup dans les yeux des gens et leur voix, en fait. Et je crois beaucoup à ces choses-là qui ne sont pas dans les mots qu'on prononce, comme manière de se reconnaître avec les autres.
Parce que je vous trouve, on se connaît pas, hein, on s'est croisé une ou deux fois, je vous trouve simplement impressionnant. C'est-à-dire, on se dit à la fois c'est un mec simple et en même temps, on n'ose pas trop y aller. Il y a comme s'il y avait une espèce de distance protectrice autour de vous. C'est dans ma tête ou ça existe?
Peut-être que, à force aussi d'être exposé, de faire des choses qui font que des gens viennent vers vous, vous développez peut-être une forme de distance protectrice qui n'est pas une armure, qui n'est pas un bouclier contre les autres, mais qui est un peu une manière de respirer, d'être dans sa propre respiration. Mais je ne cherche pas, en tout cas, à impressionner personne, quoi. Je peux jouer des personnages, en revanche, qui peuvent à certains moments être impressionnants, et je peux jouer le jeu de ça. Vous pensez
que ce sont vos personnages qui déteignent sur l'image que vous pouvez donner dans la vie de tous les jours? Il y a peut-être ça, parce que ça va être flippant, hein, vu la galerie de portraits qu'il y a sur vous.
Maintenant, je pense que l'image que je peux donner dans la vie de tous les jours, c'est celle que je peux donner à mes voisins, à mes amis, aux personnes de mon quotidien, et que l'image publique, moi, je me figure derrière mes rôles, derrière mes personnages. Donc, on finit peut-être à un moment par avoir une forme d'image publique que je ne contrôle pas, que je ne cultive pas plus que ça. Et en général, d'ailleurs, je me présente en public lorsque j'ai quelque chose à présenter, dans l'occurrence un film.
Vous aimez ça ou pas?
Oui, j'aime. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'appréhension particulière de ça. Il peut arriver à un moment, lorsqu'on a fait beaucoup de promotions, qu'on ait envie de passer à la suite et qu'on ait envie de retourner à quelque chose de plus créatif que uniquement de parler de quelque chose qu'on a fait. Mais là, par exemple, tout dernièrement sur le film Les Promesses, j'ai eu énormément de discussions hyper intéressantes avec des gens dans lesquels j'oublie d'une certaine manière que je suis en train de faire de la promotion.
Vous parliez de vos amis, quand les autres parlent de vous, c'est des canadaires de miel. Hein. Alors les mots qui reviennent le plus souvent, c'est il est gentil, il est bienveillant, il est bien élevé. Déjà, est-ce que ça vous convient ? Est-ce que vous dites quand même, je les ai tous bien eus.
Alors, bah, tous ces compliments me conviennent, mais j'ai, ouais. j'ai aussi bien sûr des défauts.
On n'en doute pas, rassurez-vous.
Mais non, mais moi je prends les canadaires de miel. Enfin, la vie m'a appris que toutes les bonnes choses, il fallait les prendre. Ouais. Donc, oui.
Mais là, on se dit, bon, bah, Reda Kateb, c'est monsieur parfait, il doit avoir sa chambre bien rangée.
Je sais pas, parce qu'en même temps, en effet, comme vous le dites, si vous regardez mes personnages, il y a sûrement quelque chose de moi aussi qui transparaît dans mes personnages, ouais. puisqu'au final, dans un costume différent, dans une démarche différente d'un rôle, dans des époques différentes, finalement, tout ce qu'on cherche en tant que spectateur, c'est une forme de vibration où il y a le personnage et il y a la personne. Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a une forme de violence chez vous ?
Oui, je pense qu'il y a une forme de violence dans l'humanité, en chacun de nous, et que du coup, c'est surtout pas en la niant ou en faisant comme si, oui, comme, enfin, moi, j'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas de propension à devenir Bouddha ou un philosophe. Enfin, je suis un acteur, j'ai un instrument dont les cordes peuvent résonner. Sur du Django, sur du 30 millions d'amis,
ouais.
ou sur du métal, pourquoi pas.
Ouais. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds
dans la vraie vie. Je pense, lorsque l'injustice, la médiocrité et lorsque cette chose-là prend la dimension de foule, lorsque finalement les faiblesses individuelles, on en a tous et on doit vivre avec et on doit apprendre à faire avec. En revanche, quand finalement des choses qui peuvent être du domaine du monstrueux en nous sont partagées comme une chose commune avec d'autres et qu'on fait corps de ça, groupe de ça, ça peut me mettre hors de moi.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Je pense au racisme, je pense au communautarisme, je pense à la violence lorsqu'elle est associée à l'identité, en fait. De se dire, pour protéger ce que je pense être de moi, alors qu'en fait on est toujours en mouvement, on bouge tout le temps, mais ce que je pense être une image figée de moi et de ceux qui me ressemblent, alors je vais me battre violemment.
C'est la meute en fait qui vous agace.
Ouais, j'ai jamais été pour le coup un animal de meute. Ouais.
Ouais. Votre dernier caprice de star, c'était quoi ?
D'être en retard 15 minutes au taxi il n'y a pas longtemps.
Comment vous regardez ceux qui en font des caprices ? Vos collègues comédiens qui font les divas, tout ça. Il y en a, ça existe.
Bien sûr. Mais très souvent, derrière le caprice, il y a une fragilité. Il y a quelque chose, notamment chez des actrices que j'ai pu voir parfois, qui avaient des moments comme ça où elles pouvaient avoir l'air capricieuses et vraiment très très antipathiques de ça. Mais j'ai une compréhension presque comme celle d'un cousin en fait, qui comprend qu'à un moment c'est une fragilité qui s'exprime et qu'il y a quelque chose d'autre que quelqu'un qui se la raconte et qui pense être au-dessus des autres, quoi.
Vous cherchez toujours une explication humaine et plutôt réconfortante, en fait.
Oui, sauf si à un moment ça marche sur mes plates-bandes un peu trop. Dans ce cas-là, effectivement, cette bulle que vous décriviez de petite distance peut se recouvrir de piques.
Dans ces cas-là, vous devenez polo et vous mordez. Alors vous attaquez le jarret.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est un de nos points communs. Lui,
regardez cette photo, Reda Kateb. Racontez-nous ce que vous voyez, s'il vous plaît.
Je vois ma gueule, comme vous disiez. Et j'entends tout de suite la chanson de Johnny. Non, mais en plus, cette photo...
C'est une photo de vous, hein, donc.
Ouais, c'est une photo de moi. C'est une photo de moi. Et c'est une photo de moi dans un moment où on me parlait beaucoup de cette question de la gueule. Je me souviens exactement, c'est au Festival de Cannes 2014, il me semble, ou 2013. Dans un moment où j'avais 3 films présentés à Cannes et c'était un peu mon premier gros coup de projo, on va dire, un gros moment d'exposition. Et cette question de votre gueule, qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir une gueule, revenait beaucoup. Elle le vient beaucoup moins désormais.
Là, c'est vous qui y venez, moi j'ai rien dit.
Ben non, mais vous me placez en même temps en face de ma gueule.
Qu'est-ce que vous avez à vous dire là ?
Eh ben, je pas grand-chose. Vous voulez dire de face à cette photo et au type que j'étais à l'époque ?
Au type que vous êtes aujourd'hui ?
Oui, parce que finalement,
c'est le même. Il paraît que c'est le même.
Ouais, il paraît que c'est le même. Franchement, pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire que dès qu'on me pose face à ma gueule, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime enfiler des costumes et jouer des personnages, j'ai pas grand-chose à dire.
Est-ce que c'est le même Reda?
Ouais, d'une certaine manière.
Est-ce que le succès vous a changé? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même?
Bah, je pense, ouais. Je pense. Il faudrait le demander à mes amis, mais je reste fidèle à mes amis et ils restent fidèles à moi, ce qui est déjà une chose. Et je pense, oui, j'ai peut-être pris plus d'expérience, plus d'occasions, mais à chaque film, pour moi, j'essaye vraiment de remettre les compteurs à zéro, de me dire, et c'est pas une pause, quoi, c'est pas cette chose de dire, on apprend sans cesse. Il y a vraiment cette idée que finalement, c'est une chance extraordinaire de jouer dans des films, de participer à des projets artistiques, et il y a rien d'acquis là-dedans. Donc moi, je profite de la bonne période que je suis en train de vivre. À ce moment-là, je savais pas que quelques années plus tard, ça continuerait encore. Donc voilà, je touche du bois pour que ça continue.
Et vous l'aimez, cette tronche, aujourd'hui?
Ouais, mais ça va. J'ai pas de problème avec ma tronche. Je me la caresse pas avec de l'huile le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Je passe pas énormément de temps devant les glaces, sauf dans les loges lorsqu'on se fait maquiller. Mais ouais, moi je m'aime bien, ça va.
Mais elle vous a un peu condamné au rôle de bad boy à un moment, non?
Je ne sais pas, les bad boys ont été un peu mon point d'entrée puisque j'ai commencé par la saison 2 d'Engrenage et un prophète direct derrière, donc sur des personnages très marqués et très bad boy, comme vous dites. Ça a été un peu, oui, la manière dont j'ai mis le pied sur le terrain, et puis assez rapidement, finalement, j'ai pu ouvrir la galerie et les gens étaient très surpris. C'est-à-dire que quand vous apparaissez par un rôle, encore plus quand il est marquant, on pense vraiment que c'est vous. C'est-à-dire que de Engrenage à Un Prophète, ou les retours des gens dans la rue, j'avais parfois des gens qui me disaient « Allez, viens, on va aller dans un squat, on va aller prendre des produits. » Et moi, je disais « Non, je vais au théâtre, là, j'ai rendez-vous, merci. » finalement, Hippocrate, qui m'a donné accès aussi aux personnes âgées dans la rue, avec les petits chiens, et une autre approche. Je trouve que c'est assez étonnant, finalement, et j'aime rester un peu inconscient de ça, du miroir, en gros, de la manière dont les gens peuvent fantasmer des personnes qu'ils voient dans des personnages à l'écran. Et finalement, je trouve que c'est pas mal qu'il reste un peu de naïveté, que les gens croient que cette personne
peut
être le personnage.
Vous laissez chacun s'inventer son rêve, en quelque sorte.
Ben, je trouve que, ouais, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. On a entendu mon père tout à l'heure pendant l'extrait. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Et lui a commencé à jouer en Algérie dans ses premières années avec la fondation du Théâtre National Algérien. Il me racontait qu'ils allaient jouer dans des pièces, dans des villages en Algérie, et que parfois, lorsqu'il était un méchant dans une pièce, des gens l'attendaient à la sortie pour lui faire la peau. Quoi, en disant, pourquoi t'as parlé comme ça à cette personne? Il y a quelque chose de cette naïveté-là qui me touche.
Votre père, Malek Kateb, il y a aussi votre grand-oncle, le poète algérien Kateb Yassine. Finalement, est-ce qu'on peut échapper à une forme de déterminisme social?
Moi, en termes de déterminisme, finalement, ça a été mon enfance passée aux côtés de mon père dans les tournées de théâtre. Ça a été plus qu'un déterminisme d'être comme mon père, c'était j'avais envie de mener cette vie-là que je voyais vraiment beaucoup plus marrante que le quotidien banal d'aller au chagrin. Et je me disais, mais c'est génial, on prend le train, on dort à l'hôtel, on a des défraiements, on nous donne des billets dans des enveloppes, on n'a pas de patron, on se déguise, on joue. J'essaie d'être toujours là-dedans.
Donc votre rêve de comédien, il est né à ce moment-là, tout petit?
Ouais, je crois vraiment. Et avant de penser à incarner des personnages, avant de penser réellement au cœur de ce que c'était finalement l'envie de vivre la vie qui va avec. Et qui n'était pas une vie de star system du tout, plus une vie d'intermittent de spectacle, voilà, de troupe, d'acteur, de saltimbanque.
Il vous a appris à croire en vos rêves, votre père, ou pas? Ou il vous disait, attends, on fait pas ça, c'est galère?
Il a eu, comme tout parent, une grande inquiétude quand je lui ai dit que je voulais embrasser ce métier-là, que j'avais envie de faire ça. Je me souviens qu'il a, oui, vraiment ça l'avait beaucoup beaucoup inquiété, et il le vivait au début presque comme un échec, l'air de dire dans quoi mon fils va se mettre, ça va être difficile, c'est tellement de galères. Mais en même temps, personne ne m'a jamais découragé de mes rêves dans ma famille. Donc voilà, et d'une certaine manière, les choses étaient quand même mises en place pour que la transmission se fasse. Ouais.
Écoutez ça, Reda Kateb, vous reconnaissez cette musique ou pas?
Oui, c'est pour le coup un film que j'allais voir petit avec mon père, que j'ai dû aller voir 6 ou 7 fois, gamin. Je l'ai plus revu depuis.
Le roi et l'oiseau.
Le roi et l'oiseau, ouais.
Racontez-nous l'histoire comme si vous la racontiez à votre fils.
Je ne saurais pas vous la raconter, ouais. Je suis désolé en toute honnêteté, mais comme je ne l'ai pas revu depuis, j'ai quelques images d'enfance, quelques dessins, quelques souvenirs, mais pas l'histoire.
Vous pouvez les images. Votre fils aujourd'hui?
Il va avoir 7 ans.
Ouais. Vous en parlez assez peu, hein.
Oui, parce que ça, c'est ma...
C'est le domaine réservé?
Ouais, c'est ma vie privée, comme on dit. Son prénom,
vous le donnez ou pas trop?
Il s'appelle Enzo, oui, Enzo, je peux le dire. Ouais. Ouais.
Et si demain, Enzo, il vous dit, papa, moi aussi, je veux jouer? Moi aussi, je vois pas pourquoi je serais pas comédien.
Bah, je lui dirais de commencer par faire des petits stages de théâtre, de voir, de...
Je l'empêcherais de rien. Au fond, vous direz comme votre père ou pas? Vous direz, oh là là, c'est un échec. Pourquoi il va là-dedans?
Franchement, non. Peut-être que ça pourrait, d'une certaine manière, m'inquiéter un peu. Mais en même temps, le monde est tellement difficile pour tout le monde, en fait, d'une certaine manière, que c'est une bénédiction d'avoir des rêves, et quels qu'ils soient, quoi. Donc non, j'essaierai de lui donner les moyens de pouvoir, finalement, assez vite se frotter au concret de ça, et de pas rester sur l'image, peut-être, de lorsqu'il a pu venir avec moi sur un tournage, notamment, il y a pas longtemps, où il y avait un cas de Covid à son école, et où je l'ai pris avec moi du début à la fin d'une journée de tournage. Il m'a dit, mais c'est trop bien ton métier, je veux revenir demain, je veux pas aller à l'école.
Si vous n'aviez pas été comédien, si ça n'avait pas marché, vous auriez fait quoi?
À un moment, j'ai pensé être professeur de français. Et je me souviens vraiment précisément d'à quel moment. C'était à l'approche de la trentaine. J'avais joué dans un certain nombre de pièces, de théâtre subventionné, de théâtre de rue, de théâtre d'intervention dans des prisons, des hôpitaux, différents lieux. De temps en temps, pour gagner un peu ma vie, je faisais le clown dans les anniversaires pour enfants. Et à un moment...
L'animation dans le salon des camping-cars aussi, non? Il y a eu un truc comme ça?
Ça aussi, ouais. J'ai fait des arbres de Noël, de comités d'entreprise, enfin, quelques expériences qui ont été vraiment formatrices d'une certaine manière, mais qui à certains moments étaient pas évidentes. Et surtout, à l'approche de 30 ans, je me disais, mais est-ce que dans 10 ans, je me vois encore dans ce quotidien-là? De jouer une pièce de théâtre de temps en temps d'avoir besoin finalement d'aller faire des animations pour gagner ma vie. Est-ce que je me projette dans cette vie-là dans 10 ans? Et la réponse était un peu non, et je me disais, finalement, si je suis allé au bout de mon rêve concernant ce métier de comédien, et que je fais autre chose, bah c'est pas grave. En fait, la vie est plus grande que ça, quoi. Et puis des rêves en amènent d'autres. C'est-à-dire que même là, aujourd'hui, moi, j'ai pas de plan de carrière pour les 10 ans à venir. J'ai des projets sur 1 an, voire 2 ans. Mais il faut pas se figer, se crisper. Parfois, j'ai pu voir des comédiens qui, à un moment, il peut y avoir un peu l'amertume, l'aigreur qui arrive. J'ai voulu toujours me prémunir de ça. Et j'ai eu des très bons profs de français, ce qui faisait que aussi, je me disais, ces gens qui ont été pour moi des déclencheurs vers la découverte, vers la curiosité, j'aurais pu moi-même être un déclencheur. Et peut-être qu'un jour, je donnerais des cours de théâtre, par exemple.
Quand on s'appelle Kateb, qui veut dire écrire, on l'entendait, hein. Ça a du sens en même temps d'être prof de français.
Oui, certainement. Alors, à nouveau, le déterminisme. Mais ça a aussi du sens dans le vécu, pour le coup. J'ai eu une prof de français.
Comment elle s'appelait? Donnez-nous son nom, parce que c'est...
Dominique Adam.
Et ben voilà, on la salue.
On la salue, ouais.
Et je... Moi, c'est souvent... Madame Kozlov que j'embrasse.
Kozlov, bon, ouais. On l'embrasse aussi. et ouais, ces personnes-là sont, pour le coup, déterminantes, ouais, sur un chemin.
On va revisiter le concept d'île déserte, Reza Kateb. Si vous pouviez y emmener pas une personne ou une chose, mais 5 personnes, ce serait qui?
5 personnes.
C'est pas Koh-Lanta, hein, y a à manger, tout ça, c'est tranquille.
Bah, 5. Alors, déjà ma compagne, mon fils. Est-ce que vous comptez les animaux parmi les 5 personnes?
On va être obligé parce que je crois qu'ils comptent beaucoup pour
moi. Alors,
vous.
Polo, ok. Donc, il me reste que 2 personnes.
Il
derrière.
Reste 2 places. Hein,
ouais. Oh là là. ma sœur et il reste qu'une seule place pour un ami, c'est dur.
C'est dur. Hein,
ouais. C'est dur. Bah, ce serait un ami anonyme, ce serait un de mes meilleurs amis.
L'ami inconnu au nom de tous les autres.
Exactement.
En fait, hein. L'ami ouais, totem.
Absolument.
Et alors, dans un monde où tous les rêves sont possibles, lui là, est-ce qu'il viendrait?
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais.
C'est Jean Gabin, c'était le évidemment. Printemps. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais la vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais ni le bruit, ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
Magnifique.
Y a pas un peu de fausse modestie à dire qu'on ne sait rien? La vie nous apprend des choses quand même, non?
Bien sûr, mais plus on apprend de choses, enfin, je vais pas vous refaire Socrate, quoi, mais plus on sait de choses, plus on se rend compte que derrière, il y a encore à découvrir. C'est aussi le jeu, c'est aussi le plaisir de ça. Et j'aime dans cette chanson les mots, et j'aime finalement la musique de la voix de Jean Gabin, la manière dont elle imprime ces mots. Et j'entends aucune fausse modestie dans sa voix. Ouais. J'entends une vérité, quelque chose qui est posé là, qui fait autorité sans être vindicatif ou véhément. Et j'entends quelque chose qui sonne vrai, en fait.
C'est l'idole absolue, Jean Gabin, pour vous?
En termes d'acteur, ouais. Franchement. Parce que je me suis toujours méfié un peu des méthodes, des noms de méthodes qu'on pouvait donner au jeu d'acteur. Alors il y a l'acteur studio, il y a Brecht de l'autre côté, la distanciation, etc. Et finalement, Jean Gabin, je l'ai jamais entendu parler de méthode. Je l'ai plus entendu dire que quand c'était midi et que c'était l'heure de la cantine, il fallait aller manger sur le tournage. J'ai déjà entendu parler de ces recettes de pot-au-feu, ces choses-là. En revanche, dans son jeu, et beaucoup dans les films d'avant-guerre, c'est-à-dire les films Renoir, les films de Gabin jeune, du Vivier, ces choses-là, mais en fait, il est d'une modernité stupéfiante. Et sans avoir les codes de la modernité, pour le coup, de l'acteur studio et tout ça. Il est, voilà, je le vois en train de conduire une locomotive au début de la bête humaine, mais je crois qu'il fait ça tous les jours. Et pourtant, c'est un monstre sacré, et c'est déjà une immense star. Donc finalement, faire oublier la star et la notion de discrétion aussi et tout ça, c'est quelque chose qui donne possibilité aux histoires d'être crues.
Écoutez ce qu'il disait de son métier, Jean Gabin.
Je remercie ce métier-là, moi personnellement, je lui dois tout. Ceci dit, j'aime bien le faire bien, mais je suis pas un dingue. Vous voyez ce que je veux dire, je suis pas un dingue de cinéma. Si je tourne plus, ça me manquera pas.
Il est comme vous, quand vous dites tout à l'heure, si ça s'arrête dans un an, ou dans deux ans, je ferai autre chose.
Bah oui, et en même temps, on dit ça, mais en réalité, je pense que si réellement dans un an ou dans deux ans, je recevais plus de scénarios intéressants, plus de choses, peut-être que je pourrais en être malheureux. Ouais. Mais c'est que ce n'est pas une fin en soi. Et puis, je pensais à autre chose. J'avais entendu il y a pas longtemps une comédienne qui avait travaillé avec Jean Gabin, et elle était d'une très grande intensité dans son approche des scènes, dans son métier. Et lui disait, mais tu sais, des fois, pour qu'à un certain moment, on sente l'intensité de ce que tu fais, il y a des moments, il faut que tu penses à tes courses, il faut que tu penses à d'autres choses. Faire les choses l'air de rien, en fait, comme si c'était pas important. Et à un autre moment, le reste va prendre du relief. Mmh. Et ça, je trouve ça passionnant et je trouve ça assez infini, en fait, hein, comme exploration.
Qui vous a donné des conseils à vous dans votre vie d'acteur?
Le premier, ça a été mon père, évidemment. Ouais. Qui m'a dit « passe ton bac d'abord
». C'est un conseil assez basique.
C'est un conseil assez basique que beaucoup de parents ont dû donner à leurs enfants. Et après, je me souviens de Georges Lavelli, qui est un grand metteur en scène de théâtre argentin, avec lequel j'avais travaillé il y a, je sais pas, une vingtaine d'années. C'était la première fois que je jouais dans un grand spectacle subventionné aux arènes de Fourvière à Lyon. Et je devais jouer le diable au début du spectacle. C'était un spectacle sur les chevaliers de la table ronde, ça s'appelait Merlin. Et le premier temps des répétitions, je me souviens, j'étais extrêmement impressionné par lui, par les autres comédiens. Je devais, au lieu de faire un diable flamboyant et plein de panache, il devait y avoir quelque chose d'un peu complexé dans mon diable. Et donc à chaque fois, il me faisait sortir de scène. Et de jour en jour, je me disais, mais c'est sûr, je vais me faire virer. Il s'est trompé, c'est pas possible. Il est en train de le réaliser et tout. Et un jour, il m'a gardé à la fin d'une répétition un peu plus longtemps. Et il m'a dit, tu sais, essaye de jouer toujours deux choses. Quand tu joues toujours deux choses, tu verras, il y a quelque chose qui se passe. Parce que les gens, ils voient le personnage, mais ils te voient toi aussi. Et je dois dire que c'est toujours resté.
Donc c'est le conseil que vous avez gardé près de vous, ça?
Jouer toujours deux choses.
Ça veut dire quoi, jouer deux choses?
Eh ben, ça veut dire que, par exemple, si vous jouez une chose extrêmement intense,
ouais,
pour revenir à ce conseil de Jean Gabin à cette comédienne, vous n'en avez pas moins des courses à faire.
D'accord. Mais il faut garder ça dans un coin de la tête.
Vous voyez, mais c'est pas forcément les courses. C'est, on a trop tendance, et c'est quelque chose qu'on apprend parfois et qui peut déformer dans les cours de théâtre, à fixer sur la chose. Je joue la joie à fond dans la joie. Je joue la tristesse à fond dans la tristesse. Et en fait, les choses sont beaucoup plus mêlées. Sont beaucoup plus mélangés.
De la nuance, en fait, non? Il faut de la nuance, c'est ça?
De la nuance et certainement du mouvement aussi. Ouais. Que finalement, lorsqu'on est traversé par des sentiments, on baigne pas dedans, on croupit pas dedans. Ça rebondit. Voilà. C'est de la musique, en fait.
Bah, la musique, ça tombe bien parce qu'on va écouter, Reda Kateb, la chanson de votre choix. Vous avez choisi Nina Simone.
Ouais.
Quel titre?
Nearer, Blessed Lord.
Pourquoi? On pourrait traduire ça par Plus près du Seigneur, hein, c'est ça?
Oui, c'est. Ouais. Ouais. C'est une chanson magnifique, c'est une chanteuse que j'adore et je vous répondrai lorsque vous me demanderez quel objet j'ai apporté.
D'accord, mais on verra ça tout à l'heure. Alors en attendant, on écoute Nina Simone.
Ok.
Thank you. a steadfast hold. My will be lost in thine. So draw me nearer. Nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer. Nearer, blessed Lord, to bleed inside.
Nearer, blessed Lord, Nina Simone, c'est le choix de Reda Kateb dans Hors-Piste sur France Inter. Alors d'habitude, parce qu'on a un peu des habitudes, même quand on est dans Hors-Piste, on fait l'objet à la fin, là on va le faire maintenant. Du coup, l'objet que vous avez apporté, l'objet de votre choix qui, vous nous disiez avant la chanson, a un lien avec ce texte, c'est quoi alors?
Alors, donc c'est un objet que je ne suis pas allé chercher très loin, puisque je l'ai toujours autour du cou.
Ouais.
C'est un ami en fait qui s'appelle Warren Ellis, qui est musicien, ouais. Qui m'a offert cette petite pièce d'argent, c'est le chewing-gum de Nina Simone. En fait.
Ah, c'est génial, c'est
ouais,
vrai
ouais.
C'est une espèce de petite de bijou qui reproduit le chewing-gum de Nina Simone.
C'est, alors, plus que de reproduire le chewing-gum de Nina Simone, donc Warren Ellis, en fait, il y a une trentaine d'années, voire plus, m'a raconté qu'il était dans un club et il jouait avec Nick Cave derrière Nina Simone. Il me disait que c'était une période où Nina Simone était vraiment pas bien, elle était dans une dépression, dans la drogue, l'alcool, et qu'il a vu arriver, tout le monde se disait, mais elle va pas assurer son concert, et il a vu arriver cette femme, toute voûtée, monter sur la scène, poser son chewing-gum sur le piano, se redresser, et faire un magnifique concert, rendre vraiment toute la salle en transe. Et lui, qui jouait juste derrière, en s'installant au piano, il a pris ce chewing-gum, il l'a mis dans un papier, il a fait son concert. Et pour lui, voilà, de ce qu'il m'a raconté de ce chewing-gum, c'est un peu ce passage-là, finalement, du monde qui peut parfois être difficile, à tout d'un coup, ce passage sur la scène qui nous transforme et qui tout d'un coup fait jaillir quelque chose.
Donc, là, il vous protège, ce chewing-gum, aujourd'hui? Il a quel sens pour vous?
Ouais, alors, il me protège de par cette histoire et de par le fait que juste après m'avoir raconté tout ça, Warren l'a enlevé de la chaîne qu'il avait autour du cou pour me le donner. Donc, il y a cette histoire, il y a cet objet et il y a ce geste d'un ami. Tout ça me protège, ouais.
Tout ça vous protège. Vous aimez la musique, Reda Kateb. Vous êtes aussi sur les écrans en ce moment, dans les salles de cinéma. L'affiche depuis quelques jours du film Les Promesses de Thomas Kruithof. Vous jouez Yazid. Hein. Yazid, c'est le directeur de cabinet de la maire d'une ville de Seine-Saint-Denis, la maire étant Isabelle Huppert. Yazid, c'est un rôle ou c'est ce que vous êtes, Yazid? Je sais pas, j'ai l'impression. Je me demande si vous avez vraiment dû composer pour ce rôle.
Je ne sais pas parfois ce qu'est la composition. Je sais que c'est enfiler un costume,
ouais.
Apprendre finalement certaines choses concrètes sur comment se déroule la journée dans le métier d'un personnage. Mmh. Pour moi, le métier, c'est extrêmement important d'être d'abord crédible dans le métier d'un rôle pour pouvoir ensuite véhiculer des choses, des émotions. Je pense que oui, il y a deux mois dans chacun de mes personnages et dans Yazid aussi. Mais
là, je trouve que la politique vous va bien, en fait, c'est ça.
Ouais, et ben, vous voulez dire que je pourrais jouer d'autres rôles de personnages politiques
ou que vous pourriez être un personnage politique.
Je ne sais pas pourquoi, parce que je peux m'exprimer, parce que je peux développer des idées ou affirmer des choses. En essayant de me faire comprendre.
Parce que vous dégagez une forme de sincérité.
Oui, mais je pense qu'il faut beaucoup d'autres choses pour faire de la politique. Et d'ailleurs, ce personnage de Yazid, qui n'est pas encore un politicien, et je ne sais pas s'il le devient après le film, qui est directeur de cabinet, finalement, à travers ce qu'il va traverser dans ce film, je me dis toujours au moment du générique, soit il deviendra un grand homme politique, soit il arrêtera. Ouais. Il fera autre chose, certainement dans une grande entreprise ou en rapport avec l'avenir brillant qui lui est promis. Mais l'ivresse du pouvoir, cette adrénaline-là, cette responsabilité-là, ce poids des calculs, etc. Moi, c'est des choses qui me seraient extrêmement toxiques.
Ouais.
Et j'aime finalement la liberté de ce métier d'acteur qui est finalement d'enfiler un costume et de s'amuser, quoi, de jouer.
Ouais, mais dans le film Isabelle Huppert qui est la mère, il y a l'ivresse du pouvoir, il y a l'ambition même chez Yazid, mais il y a aussi cette volonté de faire au service des autres, de ce sens de l'intérêt général.
Absolument.
Ouais. Vous êtes un désabusé, vous, de la vie politique ou un citoyen qui a encore envie d'y croire?
Ben, peut-être, justement, par rapport à ce film, je ne suis absolument pas désabusé par la vie politique locale.
Mmh.
Je fais une vraie distinction, finalement, entre les personnages politiques au niveau local que je peux croiser ou que j'ai pu croiser et les brèves rencontres que j'ai pu avoir avec des personnes qui sont à un niveau national voire international. Pour moi, c'est presque deux pratiques différentes et deux manières de vivre différentes. Et moi qui fais extrêmement confiance à la voix et aux yeux des gens, il m'est arrivé, face à des personnages politiques plus importants, de les observer un peu comme des fauves, quoi, en disant mais où est la personne derrière, où est l'être humain.
Voilà, vous pensez qu'elle se fait bouffer quand on monte, quand le politique monte vraiment sur l'échelle, la personne se fait bouffer par l'ambition?
Pas toujours, et je serais vraiment pas, j'ai pas du tout envie de dresser un portrait de tous pourris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des véritables convictions, qui ont une véritable dévotion dans leur rapport aux politiques et même à des hautes responsabilités. Mais il y a quelque chose qui est insaisissable pour moi sur le contact humain et pour le coup en termes de confiance.
Quelle est la place de la politique dans votre vie? Vous la suivez, vous y intéressez, vous vous engagez,
Mes engagements, ils sont plus associatifs. Donc, je suis parrain de plusieurs associations. Après, non, au niveau politique, où j'ai soutenu la liste du maire de Montreuil, la ville où j'habite. Donc, j'ai mis mon nom sur les soutiens à sa liste parce que je vois concrètement son travail dans la ville où j'habite et que je le soutiens. Et puis après, non, j'ai été régulièrement et encore aujourd'hui, un peu plus avec la sortie des promesses, approché avec des délicates et subtiles approches plutôt de gauche. Hein.
On vous drague pour la présidentielle, pour dire les choses, c'est ça?
Ça a pu arriver, ça peut arriver de temps en temps, mais je garde vraiment une grande distance avec ça. Et je n'ai pas de discours disant que ce serait la place ou pas des artistes en général. Ouais. Certains le font, d'autres le font pas. Et moi, je fais partie des personnes qui... En réalité, la place du politique, j'estime qu'elle est un peu dans mes journées, du matin au soir. C'est-à-dire d'essayer de placer l'éthique, une forme de cohérence et une forme d'empathie, de un certain rapport aux autres dans le quotidien.
Vous voyez une grande admiration aussi à l'ancien maire d'Ivry, un monsieur qui s'appelait Jacques Lallouet.
Oui, alors je ne sais pas si j'ai déjà dit que j'avais une grande admiration pour lui, mais du haut de l'enfant que j'étais, c'était une figure, quoi. Enfin, c'était comme je dirais le roi, ou enfin vous voyez, si quand vous avez 6 ans, le maire que vous voyez dans le journal de la ville.
Il a dirigé la ville pendant
33
ans.
Oui, c'est ça. C'était une grande figure. Et ça fait partie des villes dans lesquelles les actions sociales, etc., ne restent pas au niveau idéologique. Il y a des choses vraiment concrètes qui sont faites. Et voilà, j'ai pu notamment apprendre à skier grâce aux colonies de la ville d'Ivry-sur-Seine. J'ai pu partir au Burkina Faso avec la MJC d'Ivry, subventionnée par la mairie, avec que des enfants des cités, des personnes qui pour qui normalement ce genre de voyage n'est pas fait, quoi. Voilà. Et c'est à nouveau des déclencheurs. C'est-à-dire que vous prenez l'avion une fois pour aller découvrir un pays loin. Pourquoi pas le refaire et continuer encore.
Qu'est-ce qui manque à ce pays pour qu'il aille bien?
Notre pays.
Notre pays.
C'est là que mes compétences de comédien s'arrêtent et laissent la place aux hommes politiques. Non, on manque certainement de bienveillance, quoi.
Ouais.
On manque certainement de J'entends dans les promesses, notamment, qui peuvent être faites par certains candidats, j'entends, je vous promets de la violence. Mmh. Je vous promets qu'on fera mal aux autres pour que vous soyez bien. Je vous promets que, et moi, ça me froisse, ça me fait du mal d'entendre des choses comme ça, parce que, finalement, les politiques qui sont là, finalement, pour, comment dirais-je, à qui on a prêté une confiance, qui sont au service des citoyens pour administrer, pour faire en sorte que nous vivions ensemble. Lorsque effectivement ils considèrent les foules comme des meutes qu'on devrait chauffer à blanc pour aller faire du mal à celui qui serait responsable de nos maux, oui, là il y a quelque chose qui me... Il y a comme un non-sens qui fait du mal aux gens, quoi.
Mais vous dites on manque de bienveillance. Quand on regarde Yazid dans le film, il est plein de bienveillance, sauf qu'il est jugé parce qu'il est en costume cravate, parce qu'il est dirkab de la mer, et du coup les gens le regardent en disant non, mais toi, m'embrouille pas, toi t'es de l'autre côté. C'est embêtant, ça, quand même. Est-ce qu'on n'est pas trop dur avec les politiques aujourd'hui, notamment les politiques locaux?
Certainement, et notamment, enfin, sur certains événements qu'on a pu voir dernièrement où les foules s'en sont prises à des responsables politiques locaux. Je pense que ça fait partie des excès au même titre que les rednecks marchant sur le Capitole, quoi. Mmh. Enfin voilà, et ça dépasse du coup notre pays. Ça dépasse l'Hexagone. Il y a quelque chose dans cette défiance aujourd'hui du politique qui fait oublier que des personnes donnent leur vie, travaillent comme on ne peut même pas imaginer pour le bien public. Et parfois avec une grande sincérité, en même temps pris dans les mécanismes d'un échiquier dans lequel il ne faut pas être naïf, et il y a des rouages, mais c'est vrai que cette idée du tous pourris, moi je me ferais pas le chantre de ça, loin de là.
Il vaut mieux aller voir les promesses pour se faire une idée de ce à quoi ressemble la vie politique locale au niveau de son administration. Vous voterez, vous, à la présidentielle ou pas? Est-ce que c'est une question que vous vous posez, ou est-ce que pour vous c'est une évidence?
C'est une question que je me pose.
Pourquoi? Ouais,
sincèrement. Parce qu'ayant sans cesse, depuis que j'ai obtenu le droit de vote, voté par défaut, je me pose des questions. Mais je développerai pas plus là maintenant, parce que justement, c'est une réflexion qui n'est pas encore aboutie pour moi. J'ai toujours pensé que exercer sa citoyenneté par le droit de vote, c'était une chose qu'il fallait de toute façon toujours faire. Et je penche encore plutôt pour ça, mais je me pose quand même des questions.
Ça doit vous remuer, alors, de vous poser la question, non?
Oui, ça remue, mais c'est remuer, ça fait bouger aussi.
Reda Kateb, on va marquer une seconde pause musicale, le temps d'écouter Masque d'or de Fishback.
Tu lèches à la va-vite le métal et le granit. Tu me fais des langues. On t'a vu hier encore nager nu dans un volcan, épousant le grand mystère que tu as fait. C'est pas semblant. Oh, que c'est joli.
Hors piste, Thomas Soto.
Reda Kateb est dans Hors piste sur France Inter. Reda Kateb, on est presque au bout de cette émission. On a beaucoup, et vous avez beaucoup parlé de rêves. Où vous mènent vos rêves aujourd'hui?
Pour ce qui est de mes rêves de création, il me mène vers un projet de réalisation, un film que je veux réaliser, que je vais réaliser, qui me tient vraiment énormément à cœur. Et j'espère pouvoir le tourner à l'automne prochain.
Sur quel thème à peu près, sans tout déflorer?
C'est une histoire d'initiation d'une acrobate danseuse qui se blesse et qui finalement, un peu faute de mieux, va rejoindre une association de clowns à l'hôpital et qui va, à travers toute l'histoire du film, finalement, et à travers évidemment différents accidents et étapes, se révéler à quelque chose. Et voilà, c'est un film d'initiation dans cet écrin-là des clowns à l'hôpital que j'ai eu l'occasion de rencontrer avec l'association Le Rire Médecin, dont je suis parrain, et qui se situe finalement entre le monde des artistes, des soignants, et qui ont, par l'art, par le rire, une action très concrète, très palpable sur des vies, quoi.
Et avec qui vous rêveriez de tourner?
Jim Jarmusch. J'aimerais bien tourner avec lui et pas avoir à faire grand chose. C'est-à-dire, j'adore un film notamment que j'ai pu voir avec Isaac de Bancolé, où il se balade tout le film avec une mallette de violon et on sait pas ce qu'il y a dans sa mallette. Et avec un réalisateur comme ça, j'adorerais qu'il me mette dans des tableaux des choses et qu'il me dise allez juste marche, ou alors bois un verre d'eau, ou enfin voilà. Finalement, de se débarrasser aussi de l'intentionnalité et d'être croqué comme par un grand peintre ou un grand photographe.
Au début de l'émission, on entendait la remise de votre César, César du meilleur second rôle à l'époque. Il est où ce César?
Il est dans mon bureau.
Ouais.
Ni posé de manière ostentatoire, ni caché. Voilà, il est sur une étagère au milieu de quelques autres souvenirs.
Et vous le regardez encore?
Ah oui, je le regarde, je l'astique, je le vois, en tout cas, je vois qu'il est là. Et il n'y a pas très longtemps, comme il commençait à s'oxyder, c'est vrai, je l'ai lavé. Mais c'est surtout un très beau souvenir, un très très beau souvenir.
Merci beaucoup Reda Kateb de nous avoir emmené dans votre monde. C'est la fin de ce nouveau numéro de Hors Piste. Allez voir les promesses, hein, vraiment. Merci également à Marie Mériel à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Raphaël Rousseau aux manettes. Prochain Hors Piste, ce sera la semaine prochaine, dimanche à 17h. Et puis dans Hors Piste, c'est toujours le dernier mot à l'invité. C'est donc à vous Reda Kateb.
Alors, une bonne soirée à tout le monde et à bientôt sur Hors Piste.
Vous voulez pas faire la météo aussi, non?
De lundi prochain.